en Jésus-Christ. Nous te prions que nous soyons éclairés davantage là-dessus maintenant et que nous voyons le danger de vouloir nous éloigner de ce salut et que nous soyons avertis ce matin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, Steve, la semaine passée, nous a parlé d'un exploit qu'il a accompli en vacances en Suisse. Il a traversé la passerelle la plus longue du monde entier. Pas tout seul, il avait la famille avec, je pense, qui tenait sa main. Mais voilà, il a passé cela, il a fait 494 mètres de long, 85 mètres de hauteur, son point le plus haut, et 65 centimètres de largeur. Et vous imaginez, lorsqu'on est dessus, la tentation de regarder en arrière et se dire, mais c'était beaucoup mieux lorsqu'on était de l'autre côté, sur le terrain solide, ferme. Je veux retourner en arrière. Je veux abandonner. Je ne veux plus continuer. Il nous a dit qu'il a réussi. On n'a pas de preuve de cela, mais on lui fait confiance. Mais la tentation était là de vouloir revenir en arrière. Mais ce n'était pas possible. Il y avait des gens derrière. Le seul moyen de... Voilà, c'était à côté. Et ça n'allait pas bien se terminer. Mais c'est la même chose dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? La tentation de vouloir abandonner dans la vie chrétienne nous touche tous. On se dit, mais n'était-ce pas mieux lorsque je pouvais vivre comme je voulais, pour moi-même, en toute liberté, sans contrainte, sans faire des sacrifices tout le temps? Ne serait-ce pas mieux juste de laisser de côté Jésus? Et la lettre aux Hébreux a été écrite aux gens qui pensaient comme ça, qui voulaient abandonner la foi chrétienne, ils voulaient retourner au judaïsme, peut-être pour échapper à la persécution. Mais le message principal de cette lettre, c'est n'abandonnez pas Jésus, restez attachés à lui, car vous ne trouverez jamais rien d'autre comme lui. Il est supérieur à toute autre chose, toute autre personne. Et nous avons vu la semaine passée, dans les 4 premiers versets, que Jésus est la parole définitive de Dieu. Il n'y a plus rien à dire. Jésus, la parole définitive de Dieu. Et lui, il a accompli l'œuvre définitive et suffisante du salut. Il n'y a plus rien à faire pour être sauvé. Jésus a tout fait en mourant à la croix. Et cette semaine, l'auteur veut nous avertir que si nous éloignons de ce Jésus, nous n'échapperons pas au jugement de Dieu. Mais comment est-ce qu'il fait cela? C'est un peu inhabituel, mais il commence en comparant le Fils et les anges. Le Fils et les anges. Et il nous envoie ça au verset 5, 4 à 14, c'est le premier point. Il nous voit que le Fils de Dieu est plus grand que les anges. Le Fils de Dieu est plus grand que les anges. Nous voyons ça déjà au verset 4. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Grâce à sa mort, à sa résurrection, et puis Jésus est monté au ciel où il règne en tant que roi. Il est supérieur aux anges. Et il a un nom supérieur aux anges aussi, le Fils de Dieu, celui qui est en relation intime avec le Père, celui qui est Dieu depuis toujours. Et nous voyons en versets 5 à 9 que le Fils est le roi de l'univers, le roi de tout l'univers. Elle est maintenant montée à l'étage, mais Charmaine est une de nos stagiaires qui a fêté ses 21 ans hier, et elle a travaillé au palais de Buckingham à Londres. Et donc elle a vu la reine de l'Angleterre et le prince William et d'autres personnes de la famille royale. Quel privilège, n'est-ce pas? Je pense que Marc de Boot a vu le roi des Belges, n'est-ce pas? Tu as rencontré le roi des Belges. Quel privilège d'être en présence de quelqu'un de la famille royale. Mais si nous connaissons le Fils de Dieu, Jésus, ce passage nous dit qu'on connaît le roi de tout l'univers. Verset 5 reprend deux citations de l'Ancien Testament qui parlent d'un roi qui allait régner éternellement. Le psaume 2, d'abord, verset 5, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est un roi qui allait écraser les nations, qui allait régner sur toute la terre. Et ce roi, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et la deuxième citation, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Cela vient de 2 Samuel 7, la promesse que Dieu a faite à David, qu'un de ses descendants allait régner sur le trône définitivement. Et qui est ce roi promis? C'est le Fils de Dieu, venu sur terre, c'est Jésus lui-même. Et puis au verset 8, on voit qu'il va régner éternellement. Verset 8, c'est le psaume 45 qu'on a lu tout à l'heure. « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Ton trône, ô Dieu, est éternel. On voit que Jésus ici, il est Dieu. Alors, c'est le dimanche sans voiture aujourd'hui. J'espère que vous allez profiter de cela à tout à l'heure. Je trouve que c'est un des moments préférés de l'année pour moi. Je peux marcher au milieu de la rue. Oh, la liberté pour le citoyen, n'est-ce pas, pouvoir se balader l'avenue de Tevereen, et puis il y a des vélos qui passent, boum, et donc c'est pas très chouette, et on doit se mettre de nouveau sur le trottoir. Donc un jour, on va organiser dimanche sans voiture et sans vélo, et ça va être magnifique. Mais si on, voilà, il y a toujours la foule, dimanche sans voiture, n'est-ce pas, et si on demandait à la foule, qui est Jésus? Qui est Jésus? Si on avait une conversation avec quelques personnes dans la foule, qui était Jésus? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Peut-être les gens vont dire, mais il n'a jamais existé, certaines personnes pensent cela. Peut-être d'autres vont dire qu'il était un prophète, pas plus que ça. D'autres, un enseignant religieux, un personnage religieux. Mais l'affirmation claire du Nouveau Testament, c'est que Jésus n'était pas juste un simple charpentier juif, mais celui qui règne sur tout l'univers, celui qui est Dieu. Pas un simple homme, mais Dieu lui-même. Et si vous n'êtes pas persuadé de cela vous-même, venez mardi et on va voir ensemble les témoignages oculaires de la vie de Jésus dans l'évangile de Marc. Posez vos questions. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Dites-le nous. Et on va voir ensemble les textes qui parlent de cela. Il est Dieu. Et on voit que son règne n'aura jamais de fin. Verset 8. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et cela, et comparé à cela, les anges ne sont pas au même niveau. Verset 6, qu'est-ce que nous apprenons des anges? Lorsque Dieu introduit dans le monde, et le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges doivent adorer le Fils de Dieu, Jésus. Ils sont au service de Jésus. Ils ne sont pas du tout au même niveau. Et puis on voit que le Fils, non seulement il est roi, mais il a créé tout l'univers. Verset 10. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ce monde n'est pas le fruit du hasard, comme on nous enseigne à l'école. Non, il y a bel et bien un créateur qui a tout créé. Et ce passage nous dit qu'il s'agit du Fils de Dieu, Jésus. Et verset 11 et 12, on voit que, oui, la création aura une fin telle que nous la connaissons, mais le Fils n'aura jamais de fin. Le Fils est éternel. Et il est exalté, verset 13, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Jésus, après sa mort et sa résurrection, est monté au ciel, où il est assis à la droite de Dieu, et il attend. Il attend jusqu'à ce que ses ennemis soient son marchepied. Je vais demander à Jonathan ici s'il peut juste mettre ses jambes sur le banc comme un marchepied. Tu peux juste faire ça? Tu es suffisamment souple, flexible. Ouais. Oui. Et l'autre aussi, ça va? C'est, ouais. Voilà, à quel point c'était facile pour Jonathan de faire cela, n'est-ce pas? Et on attend dans ce verset que Jésus, pour Jésus, d'écraser ses ennemis à la fin des temps, c'est aussi facile que pour Jonathan de mettre ses pieds sur un marchepied. Parfois on pense Jésus tellement faible, rejeté, méprisé dans ce monde. Mais un jour il reviendra, et tous ceux qui s'opposent à lui seront écrasés sous ses pieds. Et nous devons nous assurer que nous ne trouvons pas du mauvais côté de ce roi. Jésus est exalté au-dessus des anges. Il est roi, il est Dieu, il est le créateur, de loin supérieur aux anges. Et au verset 14, juste pour enfoncer le clou, on voit que les anges sont là pour nous aider, les humains, verset 14. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Loin d'être Dieu, ils sont là pour servir les humains. Nous servir, nous qui sommes chrétiens, qui allons hériter du salut. Nous ne savons pas comment les anges nous servent, ce n'est pas ça l'important, mais nous aident à persévérer dans la vie chrétienne, jusqu'au moment où on héritera la vie éternelle. Le Fils est supérieur à tout point aux anges. Mais peut-être on se dit, mais c'est quoi l'utilité de savoir cela? Si on vous demandait, avant de venir ici ce matin, qui est le plus grand, le Fils ou les anges, peut-être vous allez déjà dire, c'est le Fils. Pourquoi l'auteur passe-t-il du temps à dire cela? C'est afin de nous avertir, au chapitre 2. Et c'est la deuxième chose qu'il veut nous dire. Le Fils est supérieur aux anges, attachons-nous donc au message de son salut, pour éviter le jugement. Le Fils est supérieur aux anges, attachons-nous donc au message de son salut, pour éviter le jugement. Il dit, il y avait un message dans l'Ancien Testament qui était annoncé par des anges, et si on désobéissait à ce message, on n'échappait pas, il y avait une juste rétribution. Il s'agit de la loi de Moïse. Souvent, on ne pense pas que la loi a été donnée par des anges, mais ici, verset 2, on voit que ça a été donné par des anges. Et ailleurs aussi, en Galates 3, acte 7 et Deutéronome 32, on apprend que la loi a été donnée par des anges. Et je ne sais pas si vous avez vu le film Les Choristes. Qui a vu le film Les Choristes? C'est chouette. Si vous voulez l'emprunter, je peux vous le prêter. Et c'est un enseignant qui arrive dans une école rempli de jeunes qui sont assez difficiles. Et le directeur, il a un refrain pour la discipline dans l'école. Est-ce que vous vous rappelez? Action, réaction. Donc, si l'enfant désobéissait, il y aura punition tout de suite, d'office. Pas question d'attendre plus longtemps. Action, réaction. Et c'était exactement ça dans la loi de Moïse, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Si on commettait une faute, il y avait une punition qui suivait. D'office, si on commettait une faute grave, peut-être on était lapidé. Une faute moins grave, on est exilé loin du peuple. Une faute pas très grave, peut-être il fallait faire restitution. Mais il y avait toujours une punition. Et on voit ça au verset 2. La parole annoncée par des anges a eu son effet, la loi. Toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Et l'auteur dit, si c'était ainsi avec la parole annoncée par des anges, et si le Fils, rappelons-nous, est supérieur aux anges, comment est-ce qu'on peut imaginer d'échapper au jugement de Dieu si nous rejetons le message concernant le Fils? Si déjà en désobéissant au message annoncé par les anges, on ne pouvait pas échapper au jugement de Dieu, à plus forte raison, le message annoncé par le Fils, on ne pourra pas y échapper au jugement, si nous négligeons un si grand salut. C'est ça ce qu'il dit au verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Impossible d'échapper au jugement de Dieu si nous négligeons le salut que Jésus apporte. Et c'est intéressant, c'est en passant de voir que le message de Jésus, c'est un message de salut. Parfois on pense qu'il faut faire plus de bien que de mal dans la vie. À la fin de la vie, Dieu va un peu comptabiliser si on a fait suffisamment de bien ou de mal. Et ceux qui ont mérité sa place au paradis vont aller au paradis. Mais ce n'est pas du tout l'enseignement de la Bible. La Bible dit qu'on a tous fait trop de choses mauvaises pour mériter une place au paradis. Ce dont nous avons besoin, c'est un salut, c'est d'être sauvé. C'est-à-dire quelqu'un d'autre doit mériter le salut à notre place. Et c'est ce que Jésus a fait dans sa vie parfaite et par sa mort à la croix, il a pris sur lui nos fautes afin de nous offrir la vie éternelle, un salut, un si grand salut. Le verset dit, il n'y a pas de salut comparable à cela. Si vous allez ailleurs qu'en Jésus, vous n'allez jamais trouver un salut pareil, un salut du jugement à venir. Un salut qui nous permet de connaître Dieu personnellement, qui nous donne la vie éternelle dans un monde parfait avec Jésus au centre. Et qu'est-ce que nous on a fait pour mériter cela? Rien. Il n'y a personne dans cette salle qui mérite quoi que ce soit devant Dieu. Mais c'est Jésus qui nous l'offre gratuitement par sa mort à la croix. Un si grand salut. Et c'est un salut qui est certain également. Beaucoup de gens dans la société pensent que la foi chrétienne est une question de prendre ses désirs pour la réalité. Ou on pense que c'est l'équivalent de croire encore au Père Noël. Pour des adultes, la foi chrétienne, c'est la folie. Ou c'est une béquille pour les faibles. Mais rien à voir avec la réalité ou la vérité. Mais l'auteur ici veut nous montrer à quel point la foi chrétienne est basée dans l'histoire. Au verset 3, vous voyez cela? Le salut, au milieu du verset 3, le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. C'est un moment incroyable, n'est-ce pas? C'est pas si vous vous en souvenez, lorsque l'homme a marché sur la lune. Quelqu'un se souvient de cela? Quelqu'un, ouais, certaines personnes, l'homme a marché sur la lune. Mais même plus important que cela, lorsque Dieu a marché sur cette terre. Dieu venu en Jésus, il a marché sur cette terre, il a annoncé ce salut, vie éternelle pour tous ceux qui se confient en Jésus. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé le message de la Bible, c'est Jésus qui a annoncé ce salut. Et cela a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, dans ceux qui étaient là, qui ont touché Jésus, qui ont entendu ce qu'il a dit. On écrit cela dans la parole pour qu'on puisse avoir la certitude de la véracité de ce message. Et cela a été confirmé par des miracles et des choses que l'on voit dans le Nouveau Testament. Le message de Jésus est vrai et certain. Et si nous le rejetons, nous n'échapperons pas au jugement de Dieu. Si nous avons rejeté Jésus dans cette vie, il nous rejettera éternellement en enfer. Et c'est pertinent, cet avertissement, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Peut-être vous êtes là en visite et vous ne savez pas trop où vous en êtes avec Dieu. L'avertissement là, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? On peut réussir sa vie dans beaucoup de domaines différents, ce domaine familial, relationnel, professionnel. Mais si nous passons à côté du pardon que Jésus nous offre, le jugement nous attend. Venez mardi pour découvrir plus sur ce salut. Et l'avertissement est encore plus pertinent pour le chrétien. Cette lettre a été écrite aux chrétiens qui étaient tentés d'abandonner la vie chrétienne. Et l'auteur leur dit non, il ne faut absolument pas abandonner Jésus, car il est impossible d'échapper au jugement de Dieu si vous négligez le salut qui est en Jésus. L'avertissement est réel. Le Nouveau Testament ne donne jamais l'impression qu'il suffit de prier une prière de repentance il y a 20 ans pour être assuré de son salut aujourd'hui. Il faut non seulement commencer dans la vie chrétienne, il faut persévérer jour après jour dans la foi et dans la repentance jusqu'à la fin. Et la tentation d'abandonner dans la vie chrétienne nous touche tous, je pense. Et ce n'est rarement soudain, comme si on se lève un jour et on décide qu'on ne veut plus croire en Jésus. Souvent, cela se passe progressivement. L'image qui est utilisée au verset 1, d'être emporté loin de Jésus, c'est l'image d'un bateau qui n'est pas très bien attaché au port et qui, avec le vent, dérive en plein océan. Quelles sont les choses alors qui nous poussent à vouloir lâcher dans la vie chrétienne? Cela peut être le péché. Si nous marchons dans le péché, dans la désobéissance flagrante contre Dieu, on devient fatigué d'avoir toujours la conscience troublée. On se dit, mais ce serait juste plus simple de laisser tomber l'Église et la foi en Jésus. Comme ça, je serai tranquille. Je peux vivre comme je veux. C'est un avertissement pour vous ici. Si vous vivez une situation qui n'honore pas Dieu, que ce soit des relations sexuelles en dehors du mariage, ou bien une liaison extra-conjugale, une addiction, la drogue ou l'alcool, ou bien un autre péché grave, attention à ne pas de ce fait abandonner la vie chrétienne. Revenez de tout cœur à Dieu confessez votre péché. Jésus vous pardonnera. Un autre cas de figure de quelque chose qui peut tenter les gens à abandonner Jésus, c'est juste que les autres choses dans la vie deviennent plus importantes. On a un boulot passionnant, peut-être. On nous respecte au travail. Et du coup, on travaille de plus en plus d'heures. On voyage plus souvent. On est toujours connecté avec nos GSM, nos mails. Et petit à petit, le fait de croire en Jésus nous semble moins important. Attention. Peut-être d'autres sont fatigués, juste fatigués de la vie. Si on faisait le tour après et on se demande, ça va, comment ça va? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, fatigué, mais ça va. On est tous fatigués, il n'y a personne ici qui n'est pas fatigué. Si vous n'êtes pas fatigué, venez me dire bonjour après, je serai ravi de vous rencontrer. Mais on se dit, mais wow, ce serait juste beaucoup plus facile de ne pas devoir continuer dans la vie chrétienne en ajoutant cela à tout le reste dans ma vie. Je suis fatigué. C'est un avertissement pour nous. Enfin, la souffrance peut nous pousser à vouloir abandonner la vie chrétienne. On a entendu qu'il y a des gens dans l'Assemblée qui souffrent énormément. Et on se dit, mais est-ce que cela vaut la peine de continuer à croire en Jésus si je dois subir tout cela? Ou peut-être vous souffrez du fait d'être chrétien, les remarques moqueuses de votre conjoint ou de vos enfants, les collègues qui parlent sur votre dos à cause de votre foi. Les raisons qui nous poussent à vouloir abandonner la vie chrétienne sont nombreuses. Mais il n'est jamais, jamais la bonne décision de vous éloigner de Jésus, ni de son Église. Car il est impossible d'échapper au jugement de Dieu, au jour du jugement, si vous rejetez le Fils. Ne le faites pas. Restez attaché à Jésus. Et si vous sentez que vous vous éloignez de lui, dites-le à quelqu'un. Un ami chrétien, quelqu'un qui peut prier pour vous. Mais comment ne pas s'éloigner de Jésus et de son salut? C'est le verset 1 qui nous le dit. Lisons le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Le danger est là, à la fin du verset, de peur que nous ne soyons emportés loin de ces choses, de Jésus. Et du message de la bonne nouvelle. Et donc, nous devons nous attacher d'autant plus aux choses que nous avons entendues. Il ne s'agit pas de chercher la nouveauté dans la vie chrétienne. Parfois, il y a des églises qui sont obsédées, des chrétiens obsédés par ce qui est nouveau, de nouvelles révélations. Non, il faut rester avec ce que nous avons entendu dans la Bible. Jésus qui est mort à la croix pour payer pour nos péchés, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est exalté maintenant au ciel, et qui attend à ce que ses ennemis soient son marchepied. Nous devons nous attacher à ces choses, revenir sans cesse à ce que nous avons entendu, à ce message concernant le Fils. Et c'est ainsi que nous ne nous éloignerons pas de lui. Et comment nous attacher au message de l'Évangile en pratique, dans la pratique? Déjà de venir ici à l'église le dimanche matin, c'est le moyen prévu par Dieu pour nous garder attachés à Jésus, d'encore entendre la parole après une semaine difficile de lutte et de souffrance. Cultiver des amitiés avec d'autres chrétiens où on se donne le droit de se poser la question, mais comment ça va dans ta foi, dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu t'éloignes de lui? Reviens, reviens à Jésus. C'est un des buts des groupes de maison, de favoriser ce genre de relation honnête entre chrétiens. Et bien sûr, entre les dimanches, il nous faut lire la Bible régulièrement. C'est là où nous allons voir ce que nous avons entendu déjà pour nous rester attachés. On se plonge régulièrement dans ce message glorieux, ce si grand salut. Et on doit être prêt à se remettre en question personnellement. Est-ce que ce passage m'avertit? Ou dans ma vie, est-ce que je risque de m'éloigner de Jésus? Ce passage sert d'avertissement. Attention! Si déjà dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas échapper au jugement de Dieu si on désobéissait à la loi de Moïse, à plus forte raison est-il impossible d'échapper au jugement de Dieu le dernier jour si nous négligeons le salut en Jésus. Et c'est un encouragement aussi, nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce message de salut que nous avons entendu. Cette année, ça doit être notre priorité, n'est-ce pas? De rester attaché à Jésus en tant qu'Église, en tant que chrétien individuel. Restons fermement attachés à Jésus. Ne nous éloignons pas de lui. Prions ensemble. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Notre Père, nous voyons à quel point le salut que Jésus nous offre est glorieux. Lui qui est mort pour nos péchés, lui qui nous offre la vie éternelle. Et nous te remercions parce que si nous faisons confiance en Jésus, tu vas nous garder jusqu'à la fin, dans ta main. Mais nous te louons également pour cet avertissement. Nous te prions que là où nous sommes tentés de vouloir abandonner dans la vie chrétienne, que nous ne puissions jamais le faire, mais que nous restions au contraire attachés d'autant plus à ce que nous avons déjà entendu, la parole de Jésus, son salut, le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Et que nous puissions être des frères et sœurs qui s'encouragent mutuellement à ne pas abandonner la foi, mais rester attachés à ce salut si grand, si glorieux. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.